L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Rockville, au fin fond de l'état du Maryland aux États-Unis. Déjà tout un symbole. Sur les driveways devant les maisons, des pick-up, et dans les rues de cette banlieue au nord d'Arlington, de la neige. Beaucoup de neige. Nous sommes le matin de Noël de l'année 1971, il est 7h30. Dans un petit pavillon beige, blanchi par le manteau blanc qui a accompagné Santa Claus, une jeune fille s'apprête à déballer ses deux cadeaux au pied d'un sapin artificiel. Ce sont deux paquets qui vont changer son destin, et par là même, celui de la musique. La reine du rock'n'roll est née, un matin de Noël, et son histoire, vous allez le voir, n'a rien à envier à un conte des frères Andersen. Il est maintenant 7h45, l'heure H de mon histoire. Joanne Marie Larkin se réveille doucement ce matin-là, avec l'excitation des grands jours. Bon, ne vous méprenez pas, cette adolescente de 13 ans n'attend plus le Père Noël depuis longtemps. Mais en enfilant ses chaussons avant de sortir de sa chambre, en déboulant dans les escaliers et en découvrant la neige tombée en abondance la nuit précédente, elle retombe en enfance l'espace d'un instant. Ses parents ne sont pas encore levés. Sa mère dort encore, tout comme ses deux petits frères. Son père, lui, est sans doute parti embrasser leur grand-mère qui habite un peu plus loin. Le vieillissant 4x4 Ford n'est plus dans l'allée. Seuls subsistent comme témoin les traces fraîches laissées par ses gigantesques pneus dans la neige. La petite maison est d'un calme olympien, sans ses parents qui se disputent bruyamment à la moindre occasion. Ils forment un vieux couple qui a commis l'erreur de laisser grandir dans le jardin de leurs sentiments des ronces bourrées d'épines, des rancunes et des non-dits. Piège fatal. La moindre remarque à l'effet d'une grenade dégoupillée et boum ! Les parents de Joanne n'en sont pas encore là, mais tout de même. Chaque verre laissé par son père dans l'évier est l'occasion pour sa mère de sortir la sulfateuse. Dans ces cas-là, son vieux enfile alors sa casquette de campagne de Nixon, ses Timberland pleines de boue, et part avec Cherry, qui saute dans la benne arrière du pick-up. Cherry, d'ailleurs, dort maintenant paisiblement devant le radiateur. Cherry est une dogue allemande noire de 65 kilos, un bon 80 cm au garrot. Sa tache blanche sur l'œil droit lui donne presque un air aristocratique. Une vraie star de rock'n'roll. La jeune fille lorgne bien entendu sur les paquets au pied du petit sapin en plastique acheté chez Bottom Dollar de Rockville Center. Comme tous les ans, son père a installé les guirlandes à l'extérieur du pavillon. Il a aussi manqué de se tuer, car son ignorance en électricité l'a conduit à faire des branchements électriques hasardeux. Le petit sapin, ce matin-là, scintille par intermittence. L'ampérage de la baraque des Larkin, c'est pas Versailles. Dans la cuisine, Joanne attrape un paquet de cornflakes dans le placard, un bol dans la commode. Elle réveille Cherry en bondissant par-dessus le canapé. Le chien, lui, souffle, se relève, fait un tour sur lui-même et se recouche dans la même position, désespéré par les ados comme peuvent l'être ses maîtres. Bon, cette fois, les paquets lui font vraiment envie. Hors de question de se déplacer, de remonter les escaliers et réveiller sa mère. Non. Non, la jeune rebelle aux cheveux plus noirs que les plumes des corneilles allume la platine qui se trouve sur une petite console au bout du canapé et attrape le premier disque qui lui tombe sous la main. Mark Bolan and the T-Rex. Très bien. Du bon rock un peu sale, juste assez pour faire lever la matriarche qui n'écoute que les Beach Boys et les Beatles. À cette pensée, et en enclenchant le mécanisme de mise en route, Joanne lève les yeux au ciel. Franchement. Maman, les Beach Boys. Instantanément, la jeune fille est transportée par le riff génial de Mark Bolan. Le rocker aux cheveux bouclés monté en permanente est l'un de ses héros. Phase 2 du disque. Electric Warrior avec son intro. Get it on. aussitôt que les premières mesures de batterie s'égrènent, elle entend sa mère qui bouge au-dessus et se lève. La jeune fille, elle, saute sur la table, basse en bois, et mime de l'air guitare à la manière de Chuck Berry. Elle chante à plein poumon, se trémousse en rythme. Get it on, bang a gong, get it on. Elle se prend tellement au jeu qu'elle n'entend pas son père qui vient d'arriver les bras chargés de pâtisserie. Sa mère, elle, est en bas des escaliers. Elle est venue pour la disputer, mais en la voyant, elle ne peut s'empêcher de rire. Les deux petits de la fratrie courent pour la rejoindre et frappent en rythme sur l'accoudoir du canapé. Après tout, c'est ce qu'elle a commandé au Père Noël, une guitare. Quand James et Dorothy ont eu vent de la commande de leur fille au Père Noël, ils sont tombés des nues. Une guitare et un ampli. Ce vendeur en assurance aime le rock, certes, mais les jeunes filles qui en jouent, c'est tout de même plutôt rare. Mais bon, ce couple pousse toujours le curseur le plus loin possible quand il s'agit de faire plaisir à leurs enfants, alors qu'il en soit ainsi. James avait donc ouvert la semaine suivante la porte d'un petit magasin de musique du centre-ville et avait acheté un combo guitare plus ampli pour $30. Il a fait confiance au vendeur. James, lui, deal des chiffres et des contrats, pas des instruments. Et comme vous pouvez aisément l'imaginer, à la découverte de cette première guitare noire qu'elle trouve splendide, Joan saute à pieds joints. C'est l'euphorie la plus totale. Elle tente d'imiter ses idoles, mais se retrouve face à la réalité du poids de l'instrument qui manque de lui tomber des mains. Bref, elle reste une ado qui se croit plus grande qu'elle ne l'est réellement. Elle reste une enfant, ce qui a tendance à rassurer sa mère sur le moment. Elle est d'ailleurs la première à lui demander de jouer un morceau et de brancher l'ampli. Son père, lui, est déjà parti se raser. Thierry, d'un air intrigué, a quitté son panier et s'est doucement approché du canapé. Mais sa mère, en demandant ça, a oublié que l'ampérage de la maison est faible. Et alors que son mari vient de brancher les guirlandes extérieures, le premier son émis par l'ampli provoque un blackout énergétique dans la petite maison du Maryland. Et du bas des escaliers, Dorothy hausse la voix en direction de la salle de bain dans laquelle le robinet est allumé. « James ! James, les plombs ont sauté !» Les semaines suivantes, Joanne s'inscrit à des cours avec un professeur reconnu de son coin du Maryland. Elle veut jouer du rock'n'roll. Keith Richards, Chuck Berry, Elvis Presley, les Doors et les Who. Et sans oublier, bien sûr, T-Rex, bien entendu. Mais le prof ne l'entend pas de cette oreille. Lui, il lui apprendra du Bob Dylan ou des morceaux bien kitsch des Beatles pour le plus grand plaisir de sa mère. La comédie dure quelques semaines et puis un jour, n'y tenant plus, la jeune Joanne lui demande pourquoi il ne lui apprend pas les morceaux qu'elle lui demande. Tirant une taffe sur sa cigarette et regardant la gamine avec dédain, il lui répond une phrase qui la marquera à tout jamais et construira l'artiste qu'elle va devenir. Les filles, ça n'a pas le droit de jouer du rock'n'roll. Hein? Eh ben, c'est ce qu'on va voir, vieille tronche. Notre histoire commence au début de l'été 1975. Voilà 4 ans que Joanne gratte sur sa guitare comme une dingue et joue du rock'n'roll. La jeune fille a quitté le Maryland avec ses parents lorsque toute la famille est partie s'installer sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, non loin du fameux panneau Hollywood. Les aléas de la vie font que ses parents finissent par divorcer et Joanne, en pleine crise d'ado carabiné, change de nom. Maintenant, elle s'appellera Joanne Jett. Détrompez-vous. Ce n'est pas le nom de naissance de sa mère, mais elle trouve que Jett, ça sonne plus rock'n'roll que Larkin. Et sérieusement, on ne peut pas vraiment lui donner tort. En tous les cas, voilà la jeune fille de 16 ans qui déambule sur la South California Avenue à West Covina, sa ville de résidence. Blouson en cuir rouge et noir, pantalon en simili noir et bottes aux pieds, personne ne la loupe. Et comme d'habitude, elle a sa grappe dans le dos. Voilà qu'elle nous dépasse et elle ne semble même pas nous voir, du moins elle ne nous salue pas. Je vous propose que nous la suivions à bonne distance. La première répétition à laquelle elle se rend cet après-midi, où le soleil cogne avec virulence, va entrer dans l'histoire. Joan Jett déboule avec son instrument dans une zone de garage allouée à la journée. Elle mâche un chewing-gum avec provocation, bouche ouverte et chantonne. Elle bifurque dans une allée. Elle a l'air de chercher son chemin. Elle tombe finalement sur le bon numéro. Là, une jeune femme de son âge, Sandy West, monte une batterie. Elles se sont connues à l'école et, toutes deux rebelles, ont décidé de monter un groupe de rock. La seule condition pour l'intégrer ? Être une fille. Pas question d'y voir un mec tirer la couverture à lui. Non, pas cette fois. Leur idée a motivé quelques autres enfants perdus cherchant à se faire une place dans le monde de la musique. Et ce sont trois musiciennes supplémentaires qui ont rejoint le duo. Jett et West ont déjà choisi le nom de leur groupe. Il s'appellera les Runaways, littéralement les Fugueuses. Tout un programme. Les Runaways jouent un rock énergétique, glam rock même, pour nous dire, tirant déjà sur le punk. Les guitares sont descendues très bas, presque au niveau des genoux, en signe de rébellion, avec un chant qu'on n'attribue jamais à des gamines de 16 ou 17 ans. Ah, le cocktail est explosif. Mais le groupe va mettre quelques mois à décoller. L'histoire prend forme uniquement lorsque Cherry Curie, une ado de leur génération, va prendre le micro et mettre le feu aux poudres avec sa chevelure blonde platine et ses plateformes aux pieds. Une véritable rockstar. Tout de suite, le tandem Jett Curie s'impose pour les compositions et le lead du groupe. Les gamines tapent dans l'œil de Kim Fowley, un producteur américain déjà bien connu et qui leur fait signer un contrat en 1976 chez Mercury Records, le label de la grande classe. On ne parle pas de n'importe quelle maison de production. Mercury, s'il vous plaît. C'est l'étiquette collée sur les têtes de Kiss, In Excess, Bowie, Jerry Lee Lewis et bien d'autres encore. Cette marque de confiance n'est pas à prendre à la légère. Le milieu musical de l'époque est ouvert aux États-Unis à des innovations multiples. Et cette idée d'un line-up féminin, après tout, pourquoi pas? Mais bon, pour jouer et percer, il leur faut un titre phare. Et c'est Joan qui va leur trouver le bon filon en composant la piste Cherry Bomb. Et bingo, c'est le jackpot. Le jeu de mots entre Cherry, Cerise, et le prénom de la chanteuse du groupe est évident. Cette track, c'est 2 minutes 20 de pur bonheur et de provocation. Le clip fait tourner toutes les têtes. En porte-jartel blanc et noir, la chanteuse devance sur scène le trio formé par les guitares et la basse, qui se place devant la batteuse. À gauche, Jett se révèle au volant d'une Gibson couleur or. Elle arbore un jeu scénique des plus sages, chaussée d'une paire de bottes blanches recouvrant un simili noir. Tout le contraire des paroles qui sortent de la bouche de cette gamine encore mineure en lingerie. Salut papa, salut maman, je suis votre cherry bomb. Salut le monde, je suis ta fille sauvage, je suis ta cherry bomb. Un petit solo de guitare et emballé c'est pesé. Cherry bomb. Mais alors que les ventes décollent en Europe, et surtout, phénomène totalement nouveau pour un groupe de rock US, au Japon, les critiques nationales, elles, sont plus mesurées. Et surtout, les filles vont être les victimes de haine. Une haine qui va se déverser sur elles et sur leur travail. La misogynie dans le monde du rock'n'roll est un phénomène bien connu et observé à de nombreuses reprises. À croire que la musique sanguine ne peut être réussie qu'avec de la testostérone. Pourtant, il suffit d'écouter Cherry Bomb une ou deux fois pour être convaincu du contraire. Ce n'est d'ailleurs certainement pas le cas des machistes qui déversent leur haine sans fondement ni retenue sur ce groupe de jeunettes qui aurait pu, vu la violence de certaines attaques, faire marche arrière. Mais il n'en sera rien. Elles accélèrent, se nourrissent de cette malveillance pour provoquer encore un peu plus. Mercury leur fait enregistrer un premier album dans la foulée. Leur batteur n'étant pas disponible pour la totalité des enregistrements, c'est le futur batteur du groupe Blondie qui s'y collera. Rien que ça. S'ensuit une tournée nationale et les morceaux qui sortent avec cette première cuvée sont des plus percutants. Courts, trash, provocants, c'est la recette Made in Runaways. Les scènes de tous les pays sont balayées par les tenues provocantes de la chanteuse et les paroles souvent grivoises d'une bande de jeunes filles qui viennent de fêter leur 17e anniversaire. Le succès est au rendez-vous, mais pas au point attendu en premier lieu. On renvoie donc les filles en studio et le deuxième album, Queens of Noise, les reines du bruit, pour le dire poliment, va déboucher sur une tournée, cette fois mondiale. Et voyageant toute la deuxième partie de l'année 1976 en Europe et en Asie, la petite bande se rend compte que l'accueil n'est plus le même. Elles sont adulées comme des pionnières. Les ventes au Japon explosent. Elles deviennent en Asie des véritables rockstars. Elles rentrent cependant aux États-Unis un peu avec la gueule de bois, déçues de ne pas être prophètes en leur pays. Oh, elles ne sont pas les premières à qui cela arrive, bien entendu, mais John et ses amis sont particulièrement affectés par ces attaques machistes incessantes, qu'elles sont toujours contraintes de repousser à coups de nouvelles provocations et de chansons. Le troisième album, qui en général est celui de la confirmation, ne l'est pas vraiment. Des dissensions naissent entre les filles. D'un côté, Joan Jett, qui a compris que le vent les portera vers un style plus marqué punk glam rock. De l'autre, Sandy West, la batteuse avec qui elle a fondé le groupe et l'autre guitariste, qui souhaite plutôt jouer du heavy metal. Elles veulent suivre la voie des groupes comme AC/DC, qui commencent à percer sur le sol américain. Difficile de savoir ce qu'il serait advenu si les filles s'étaient mises d'accord, mais en tous les cas, le groupe décide de se séparer au début de l'année 1979. Fin de l'histoire. Sandy West, la cofondatrice du groupe, va continuer une aventure musicale en solo et finira par mourir d'un cancer des poumons en 2006. L'autre guitariste, qui voulait faire du heavy metal, va en faire. Collaborant notamment avec Ozzy Osbourne et explosant les charts américains sur certains titres. Lita Ford, voilà son nom, si vous êtes curieux d'aller découvrir son univers. Cherry, la chanteuse en porte-jartel, elle, va s'essayer à une éphémère carrière d'actrice avant de lâcher totalement la voie du show business. Aujourd'hui, elle est devenue sculptrice à la tronçonneuse, toujours dans la délicatesse comme vous le voyez. Mais celle qui nous intéresse plus que les autres, Joan Jett, décide elle aussi de continuer la musique. Elle se lance dans une carrière solo qui, vous allez le voir, peine fortement à démarrer avant de pourtant devenir légendaire. Ce sera grâce à une reprise d'un titre d'un sombre groupe venu de Grande-Bretagne.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H se consacre à la carrière d'une pionnière du rock'n'roll aux États-Unis, Joan Jett. Un parcours qui commence à l'âge de 16 ans par un groupe qu'elle fonde avec d'autres adolescentes de sa génération, les Runaways. Elles seront promues au rang de stars en Europe et en Asie, mais nullement prophètes en leur pays. Et ça, Joan va l'apprendre à ses dépens. La musicienne qui souhaite ensuite se lancer dans une carrière solo va faire face à un mur et sera contrainte d'enfiler son perfecto de rebelle, encore une fois. Nous sommes en 1980, un an après la séparation des Runaways. Dans sa maison de Long Beach, dans l'état de New York, Joan est au fond du trou. Son grand ami avec qui elle a décidé de travailler depuis le départ de sa carrière solo, Kenny Laguna, est avec elle. Et alors que la star pète un plomb et envoie valser la moitié du mobilier du salon, lui reste calme. Il attend que la tempête passe avant d'intervenir. Pas fou le bonhomme. Il sait bien que Jet est une vraie furie quand elle est en colère. Alors, il ne tente surtout pas de remettre des pièces dans le jukebox pour relancer la machine. Non. Sa cigarette à la main, appuyée sur le rebord de la fenêtre qui donne sur les arbres environnants, il se contente sagement d'attendre. Il faut dire que Joan Jett est en colère pour une excellente raison. Voilà le 23e, vous imaginez, 23e label qui refuse de la produire. Les filles ne jouent pas du rock'n'roll. Cette foutue maxime de son premier professeur de guitare lui trotte encore dans la tête. Non pas qu'elle se laisse abattre, non, mais elle est fatiguée. La lionne, tout doucement, commence à baisser sa garde et à presque penser qu'elle n'est pas à sa place. Mais Kenny est là pour la remettre sur le droit chemin et redorer cette confiance en soi en berne. Ah, lui, il y croit depuis le premier jour. Cette nana est un diamant brut. Il le répète à chaque fois qu'il tente d'aller la vendre au label. Bien entendu, le fait de se faire recaler n'est jamais facile, mais on apprend de ses échecs, non ? Comme dit l'autre, ce qui ne tue pas... Enfin, ça c'est la théorie. Parce que ça fait mal tout de même, les échecs. Kenny comprend son poulain, bien entendu. Et pendant tout le trajet entre la Big Apple et Long Beach, il a cogité dans sa Ford Mustang qui fait autant de bruit qu'un tracteur. Il a peut-être trouvé la solution pour se relancer. Et alors que Joan vient de briser un énième vase dans un coup de sang contre les producteurs machistes et véreux qu'elle ne supporte plus depuis longtemps, il se permet de lever la main comme pour interrompre le flot de colère infernale qui se déploie devant ses yeux. Lui, il est habitué, mais croyez-moi, vous seriez ébahis. C'est alors qu'il expose à l'artiste son raisonnement et chaque phrase qu'il prononce fait mouche. À la troisième, Joan Jett s'est assise dans le fauteuil. À la cinquième, elle écoute attentivement. La solution qu'il propose est audacieuse, casse-gueule, particulièrement dangereuse et surtout novatrice. Tout pour plaire à notre starlette en herbe qui rêve d'enfin se faire un nom qui lui est propre. Elle va fonder son propre label pour s'autoproduire. Jamais, dans l'histoire du rock, une femme n'avait tenté ce coup de poker. Encore une fois, Joan enfile son perfecto de pionnière. Après tout, c'est celui qui lui va le mieux. Ainsi est né le Black Heart Label. Oh, bien sûr, c'est une minuscule structure à ses débuts, mais pleine d'enthousiasme. Joan est portée par cette idée d'être enfin totalement indépendante. Les prémices de cette aventure sont fragiles, difficiles. Le petit label produit et fait fabriquer ses propres disques, qui sont vendus presque à la sauvette à la fin des concerts, dans le coffre de la nouvelle Cadillac de Jet. Mais l'aventure est excitante. C'est un euphémisme. Et les deux amis y croient dur comme fer. Un groupe se monte, dans lequel Joan est entourée de mecs jouant des instruments différents. Elle porte la voix et la guitare rythmique avec sa Gibson Melody Maker de couleur blanche. Ce modèle deviendra sa signature absolue. L'année précédant la création du label, Joan est allée à Londres enregistrer 3 titres, dont une reprise d'un groupe peu connu, The Arrows. En 1976, lors d'une tournée avec les Runaways en Angleterre, elle découvre à la télé le titre « I Love Rock'n'Roll », trouve les harmonies valables et décide d'en faire une reprise. Son nouveau groupe, Joan Jett and the Blackhearts, est crédité et un clip sort en novembre 1981. Il va totalement renverser l'opinion et enfin faire de notre rockeuse une star à part entière. Laissez-moi vous dresser le tableau. Un bar de Londres, pas super vivant, du noir et blanc rendant l'image presque floue, et un jukebox qui passe son titre Bad Reputation. Là, un jeune homme qui dandine la tête. Et puis, la rue et Joan Jett, mâchant un chewing-gum vêtu totalement de cuir, qui rentre dans le bar comme un shérif. 8 coups de caisse claire pour entrer dans l'histoire et l'un des riffs les plus célèbres de l'histoire du rock démarre. La recette du succès made in Joan Jett, une nouvelle fois. Tous les groupes de rock amateurs ont déjà joué cette musique en ouverture de concert, tant c'est gage d'un succès et d'une communion avec le public. Cette reprise vient fixer avant l'heure l'avènement de la célébrité aux États-Unis d'un style bien né en Angleterre, le punk. Matérialisé par un autre quatuor aussi déjanté que malsain, les Sex Pistols. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si en 1979, lors du premier enregistrement du morceau, deux membres de ce groupe iconique l'ont accompagné pour jouer. Encore une fois, en tous les cas, Jett ne laisse pas tomber son perf de pionnière. Pour le grand plaisir de son producteur qui fait rentrer avec ce disque une coquette somme d'argent dans les caisses et surtout qui installe Joan au cœur du panthéon du rock'n'roll. À coups de riffs et de solos de guitare, son groupe et elle se perfectionnent, enchaînent les tournées et les salles combles. La page des Runaways est définitivement tournée, même si, précisons-le à toute fin utile, en 1982, la star n'a que 24 ans. Toutes les portes lui sont ouvertes et la voie du succès semble toute tracée. Pendant quelques années, en effet, ces disques tournent à plein régime, entrent dans les charts et bousculent les fans du genre. Finalement, ravis de voir arriver dans la cour des grands la jeunette et sa bande de mauvais garçons aux cheveux gominés. Son style de musique, d'ailleurs, est très particulier. Punk rock, certes, mais elle puise également, à compter des années 84 et 85, dans l'univers glam, tant dans les riffs que dans l'allure vestimentaire. Kiss et les autres n'ont plus aucun secret pour elle. Mais rien n'est jamais acquis, vous le savez bien. Le destin est parfois cruel ou remet à leur place les plus confiants. Ou peut-être se laisse-t-elle griser par le succès. En tous les cas, Jett négocie mal la prise d'un virage musical décisif et va connaître, à l'instar d'autres groupes légendaires, une période de vache maigre. Réussira-t-elle à rebondir ? Voilà une autre histoire. Vous vous souvenez de l'adage ? Ce n'est pas la chute qui compte, c'est l'atterrissage.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H qui nous occupe se penche sur le destin d'une furie du rock américain, Joan Jett. Devenue une star au cœur de son adolescence avec son groupe des Runaways, elle peine à lancer sa carrière solo à la séparation du groupe en 1979. Et ce, principalement à cause de refus répétés de nombreuses maisons de disques. Mais rien n'arrête la ténébreuse brune d'à peine 20 ans. Elle lance son propre label. Elle est la première femme dans l'histoire du rock à le faire. Pionnière dans de nombreux domaines, Joan Jett va pourtant connaître une chute de popularité et peiner à rebondir. « Nous sommes à la fin de l'hiver de l'année 2003. Long Beach, État de New York. La propriété de John Jett est bien calme. Il y règne une atmosphère de quiétude et de paix retrouvée. La roqueuse est sur son perron, fume une cigarette. Elle a dans la main la dernière édition du magazine Rolling Stone. Ce sont ses acolytes des Black Hearts qui lui ont apporté ce matin, excités comme des gamins par ce qu'ils viennent de découvrir. Ils ne sont pas restés pour faire la fête. Ils savent que Joan est du genre casanier en ce moment. Ah, elle a changé quelque peu la taulière du punk américain. Elle est devenue plus recluse, plus calme, plus en paix avec elle-même aussi. Une phase de la vie qu'on appelle peut-être la résilience. Elle ne sait pas vraiment. En tous les cas, elle est fière de ce qu'elle vient, elle aussi, de parcourir. David Frick est un journaliste du rock parmi les plus connus et les plus respectés du milieu. Et le magazine Rolling Stone, pour lequel il écrit, est une bible pour les fans du genre. La grande annonce de cette année était la sortie pour la première fois d'un classement des meilleurs guitaristes de tous les temps. Un top 100, parmi lequel Angus Young, Ritchie Blackmore, Keith Richards ou Jeff Beck allaient se tailler la part du lion. Hendrix est en tête, rien de plus normal et le plus attendu. Ce qu'il est moins, c'est que Joan figure dans ce top 100 à une très honorable 87e place, devant d'autres rockstars tout aussi méritantes. Deux femmes seulement dans ce classement qui fait du bien, et elle y est. C'est enfin la reconnaissance de la part de la profession. Elle a beau dire qu'elle s'en fout depuis des années, lorsqu'on enlève le vernis qui recouvre son perfecto, elle est touchée au plus profond d'elle-même. Elle est passée par des moments tellement galères tout au long de sa carrière, c'est aussi ça le destin d'une pionnière. Fatiguée de toujours devoir se battre, Joan Jett avait fini par lâcher du lest. Musicalement, les 90s n'ont pas été une réussite, elle le sait bien. Elle et son style sont tombés dans un marché de niche qui la condamne à ne plus pouvoir exploser, comme elle a pu le faire avec « I love rock'n'roll » ou « I hate myself for loving you ». Le train du temps qui passe et qui apporte avec lui la modernité et le changement. Être punk, ce n'est plus tellement à la mode en ce début des années 2000. John le sait bien, mais pas de problème. Ce n'est pas pour autant que c'est l'heure de la retraite. Bien au contraire, rester fidèle à soi-même tout en s'ouvrant aux nouveaux venus. Voilà la marche qu'elle a décidé de suivre. Et écrasant sa cigarette dans son cendrier où un diable est sculpté dans le bois, elle repense à sa traversée du désert avec fierté et émotion. La fin de la décennie des 80s, pourtant, s'est terminée pour elle en trombe. L'album Up Your Alley est un vrai succès critique et commercial. Le single de l'album, I Hate Myself for Loving You, est une véritable bombe. 8e place du Billboard américain, 3e morceau de Jett à atteindre le top 10. Le dernier aussi. Le précédent, déjà, datait de 1982. Il lui aura fallu 6 ans pour retrouver la voie du succès. Une éternité dans ce monde de requins qu'est la musique. Cette piste, en tous les cas, sera tout de même nommée aux Grammy Awards l'année suivante. C'est là une belle consécration. Tout le monde pense alors que le renouvellement de Jett est en marche et qu'elle s'apprête de nouveau à cartonner. Hélas, la vie est parfois joueuse, et l'album suivant, qui sort en 1991, est un semi-échec. De ceux qui sont peu supportables, dans le sens où il est qualifié de fade. Et puis plus rien, pendant 3 ans. Un nouveau disque sort en 1994, et là, le public n'est plus du tout au rendez-vous. Alors, condamné à l'oubli, Joan Jett ? Musicalement, en tous les cas, sur le marché des nouveautés, cela en prenait bien le chemin, mais si vous pensez qu'elle allait se laisser abattre, c'est que vous avez mal cerné le personnage. Elle va simplement changer de casquette et réenfiler son fameux perf de pionnière. Depuis toute petite, Joan Jett rêve d'être actrice. Dans les années 1980, elle a déjà connu une période de vache maigre qu'elle a su transformer en opportunité. Elle a eu l'honneur de pouvoir partager l'affiche avec Michael J. Fox dans le film Light of Day, qui provoque de bonnes réactions sur le marché des sorties US et dans quelques pays d'Europe. L'acteur dira plus tard le plus grand bien de la performance de la rockeuse et Jett est ravie de cette nouvelle expérience, somme toute très différente de tout ce qu'elle a pu faire avant. La bande originale, écrite par Monsieur Bruce Springsteen, s'il vous plaît, est un véritable succès et permet aux deux stars de pouvoir se rencontrer. Son creux musical des années 90 ne lui donne pas cette fois l'occasion de revenir au cinéma. Son profil plaît déjà moins et c'est alors vers une toute autre activité que la star va devoir se tourner, la production. Son label des Black Arts devient une plateforme sur laquelle de nombreux artistes de la nouvelle scène punk, rock et même jusqu'au R&B vont pouvoir s'exprimer et trouver chez elle un véritable soutien. Elle se surprend à apprécier le contact avec les jeunes artistes en quête de reconnaissance. Ses apparitions sur le marché du disque en son nom propre, donc, diminuent doucement. Ce n'est qu'en 2004. Rendez-vous compte, 10 ans après la sortie de son dernier disque, qu'un nouveau CD sort dans les bacs. La plus longue période de sa carrière musicale entre deux nouveautés. Pour autant, Joan Jett n'a pas abandonné l'idée de jouer sur scène, bien au contraire. Et son aura dans le milieu du rock'n'roll est telle qu'on fait toujours appel à elle pour des festivals ou des collaborations. En 2002, elle vivra une expérience assez extraordinaire qui va lui redonner un formidable élan et dans laquelle elle va s'illustrer. Entrée en guerre en Afghanistan depuis déjà de longs mois, les États-Unis ont besoin de remonter le moral de troupes qui ont le sentiment de s'enliser dans ce pays du Moyen-Orient. Le gouvernement américain décide donc d'organiser pour ses soldats des concerts et des apparitions de stars du pays. Et en 2002, parmi les premières, c'est Joan qui grimpe sur la scène de concert du camp de base US. Et au-delà de sa performance, c'est sa gentillesse et sa proximité avec la troupe qui interpelle. Les soldats sont ravis, puisque la plupart des stars qui sont déjà passées avant sont reparties juste après leur show, sans prendre le temps de parler avec les militaires de la base. Joan, elle, fait le choix de s'installer derrière une petite table pliante et d'échanger avec eux, distribuant des photos et signant des autographes pendant un long moment. Pas mal pour une punk, non? Elle décide également de s'ouvrir aux collaborations scéniques avec d'autres artistes. En 2010, elle assure les premières parties du groupe Green Day, alors au firmament d'une popularité qui s'étiole, puis produira le même type de show pour le groupe Aerosmith durant toute sa tournée au Canada. Si ses sorties disques sont beaucoup moins attendues, la plupart des festivals du genre se font toujours un plaisir de l'accueillir. C'est notamment le cas du Hellfest, qui la place parmi ses têtes d'affiche en 2018. Consécration des consécrations, elle est introduite au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2015. La reconnaissance de décennies de combats musicaux et sociétaux. Aujourd'hui âgée de 64 ans, Joan Jett continue de traîner sa guitare sur les scènes du monde entier sans vraiment ralentir la cadence. Ambassadrice de l'association PETA pour une éthique dans le traitement des animaux, elle est une végétarienne de longue date et se bat avec vigueur pour le droit des animaux. Sa vie, au fond, s'est sans cesse construite autour d'engagements multiples, sans jamais oublier l'essence même du rock'n'roll. Et je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation de celle qu'on surnomme la Queen of Rock'n'Roll, parce qu'elle a donné du sens et ouvert la voie à de nombreuses formations féminines au cours de sa carrière, riches et diverses. Un soir, sortant de concert, un journaliste l'interpelle sur sa manière d'être en symbiose avec sa guitare. Du tac au tac, elle lui répond dans un sourire. Ma guitare n'est pas un objet, pas une chose. C'est une extension de moi-même. C'est ce que je suis. Je crois que beaucoup de musiciens pourront comprendre cela. Voilà donc pour ce récit que j'ai le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.